semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, samedi 18 juillet, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements, avec bien sûr les reportages de la rédaction. Vous pouvez aussi écouter cette émission, la télécharger sur le site de la radio, www.rfi.fr, pour la suivre quand vous le voulez. Comme d'habitude, nos destinations seront nombreuses, États-Unis, Inde, Pérou, Mali, Sénégal par exemple, avec une étape en France également, où à l'occasion d'un entretien télévisé, Emmanuel Macron a annoncé vouloir prendre un autre chemin dans sa présidence ces deux prochaines années. Écoutons-le.
Ce projet pour le pays, c'est pas changer de cap, de destination finale, qui est d'avoir une France forte, indépendante, dans une Europe autonome, et au fond que chacun puisse vivre mieux. C'est de changer de chemin pour y arriver. C'est d'associer davantage. C'est de passer davantage par le dialogue social, par l'association avec les élus. Et c'est peut-être de bâtir plus fortement une confiance si fragile.
Nous reparlerons tout à l'heure des propos d'Emmanuel Macron. Nous sommes cette semaine en compagnie de Michel Fouché, géographe et ancien diplomate, spécialiste de la question des frontières, auteur d'ailleurs du Retour des frontières, un livre qui vient d'être réédité. Et puisque nous parlons de frontières, il nous faut de suite revenir sur les affrontements entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, qui depuis des décennies se disputent le territoire du Nagorno-Karabakh. Elliot Braché.
La Russie a appelé à la retenue, proposant de jouer les médiateurs. De leur côté, l'Union européenne et les Nations unies exigent un cessez-le-feu immédiat. Mais le vice-président turc, Fuat Oktay, a apporté son soutien à l'Azerbaïdjan, victime selon lui d'une attaque inadmissible. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont deux ennemis de longue date. Les deux ex-républiques soviétiques se disputent la région du Haut-Karabakh, un territoire à majorité arménienne situé au milieu de l'Azerbaïdjan. Un territoire qui avait fait sécession à la chute de l'URSS en 1990 avec l'appui de l'Arménie. Le conflit avait fait près de 30 000 morts avant qu'un fragile cessez-le-feu soit signé en 1994. Depuis, l'Azerbaïdjan, supérieur militairement, menace régulièrement de reprendre ce petit territoire par la force. La semaine dernière, le président Ilham Aliyev avait tenu des propos belliqueux. L'Azerbaïdjan, pays turcophone, a des relations privilégiées avec Ankara, tandis que l'Arménie est historiquement soutenue par la Russie. Selon certains analystes, une guerre ouverte entre Yerevan et Bakou pourrait déstabiliser tout le Caucase, provoquant un effet boule de neige dans le jeu des alliances régionales.
Bonjour Michel Fouché.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous, d'être avec nous. Vous êtes géographe, spécialiste de la question des frontières, auteur d'ailleurs de l'Obsession des frontières en 2012 et du Retour des frontières, votre livre publié en 2016 au CNRS Éditions et réédité dans une édition revue et augmentée, où l'on a bien compris, Michel Fouché, qu'avec cette épidémie, on redécouvre en quelque sorte la notion de frontières précisément.
On la redécouvre dans sa fonction prophylactique. Hein. Ça fait des siècles que les phénomènes de quarantaine, de lazaret existent. Il y a même en Provence un mur de la peste. Donc il était nécessaire. Au fond, c'est une des formes du confinement, si vous voulez. C'est une des échelles. C'est la fermeture des frontières temporaires en Europe. Ça a beaucoup choqué. C'est le confinement à l'échelle nationale. Mais c'est la même chose que pas sortir de chez soi ou mettre un masque, c'est une forme de masque collectif. Mais c'est provisoire. Simplement, c'est un retour, moi j'en avais parlé il y a longtemps, parce que je pense que c'est un sujet important. Symboliquement, on a besoin d'une distinction pour faire, on parlait du discours du président Macron, pour faire société, pour avoir une conscience politique, il faut qu'il y ait une distinction entre le dedans et le dehors, et je dis le dehors sans aucune discrimination. Hein, il y a besoin de cette distinction, et c'est une forme de reprise de contrôle symbolique sur le bulldozer de la mondialisation technologique.
Alors, ce qui frappe Michel Fouché, c'est l'importance en fait de la fermeture de ces frontières. Vous le rappelez dès le début de cette nouvelle version de votre livre, Le Retour des frontières, vous nous rappelez que 188 États ont fermé leurs frontières. Je rappelle qu'il y en a 193 représentés aux Nations Unies et qu'à l'intérieur de l'Europe, 39 frontières ont été fermées aussi.
Oui, mais c'est provisoire. Encore une fois, ce sont des mesures temporaires qui n'ont pas été prises de manière concertée, mais en gros, c'était difficile. Moi, j'ai un peu travaillé sur la diffusion, enfin comme géographe, en amont de tout ça, à partir du foyer de Wuhan. Bon, par exemple, si vous prenez la Suisse, le canton le plus touché, c'est le Tessin. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de travailleurs chinois qui vont en Lombardie. Alors, l'Espagne, c'est très curieux, parce que l'Espagne n'est pas dans l'Europe des hautes densités, de la Lombardie à la Belgique et au bassin de Londres. Mais il y a eu une manifestation indépendantiste entre Barcelone et Perpignan, ça reprend d'ailleurs. Et puis, il y a eu ce fameux match de foot à Milan, entre Bergame et Valence. Il y a 2500 supporters de Valence qui ont traversé la Méditerranée. Ils sont venus avec le Covid. Nous, on a eu Creil. On a eu ce Britannique qui faisait du ski à la Cotamine Montjoie. Il rentrait d'un colloque à Singapour où il avait dîné avec des amis qui avaient dîné avec des gens de Wuhan. Ce que m'explique mal, c'est l'affaire de Mulhouse. Parce que Mulhouse, c'est, je ne connais pas l'origine de premier cas, si vous voulez, mais une infirmière dans l'église revient à Strasbourg et contamine 250 personnes. Donc, il y a une espèce de géographie de cette diffusion qui n'est pas liée, je dirais, à la mondialisation économique et financière, qui est liée à l'intensité de la circulation pour des raisons professionnelles, familiales, les familles binationales, les pèlerins, les touristes, tous ceux qui circulent. Hein. 4,5 milliards de voyageurs en 2019 dans le monde par voie aérienne. Et d'ailleurs, on voit très bien aujourd'hui que l'impact le plus durable de cette pandémie et de ce confinement, au fond, les vraies frontières qui sont fermées sont les frontières aériennes. Il n'y a plus qu'un seul vol, enfin bientôt deux, entre Paris et Shanghai. Oui. C'est extraordinaire, extraordinaire. Il y avait 6,000 passagers par jour entre les États-Unis et la Chine. 6,000 par jour. Voilà, donc là, on voit les frontières les plus fermées durablement sont les frontières aériennes.
Alors Michel Fouché, il y a les frontières et cette épidémie, cette pandémie, il y a aussi les frontières mal définies qui demeurent des sources de conflits. On en a un exemple dans l'actualité ces derniers jours, l'exemple du Nagorno-Karabakh et de ce conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
J'apporte un petit correctif à votre commentaire tout à l'heure. Le conflit a commencé en 1988, et non pas après la fin de l'Union soviétique. Ça a commencé avant. Hein. Ça a commencé avant, et c'est le plus ancien conflit frontalier violent, plus de 30 000 morts, vous l'avez rappelé. Je m'explique mal le facteur déclenchant, parce que ça ne s'est pas passé cette fois-ci dans Nagorno-Karabakh, ça s'est passé plus au nord, à proximité de l'axe qui relie Bakou à Tbilissi en Géorgie. Mon sentiment, c'est qu'il y a un effet Covid dans tout ça. Dans certaines situations, on l'a bien vu, les gouvernements en difficulté, que ce soit par manque de moyens hospitaliers, ou bien parce que, comme en Azerbaïdjan, le prix du pétrole s'est effondré, les gouvernements en difficulté, les gouvernements autoritaires, se sont tous engagés depuis quelques mois dans une fuite en avant nationaliste. Alors je ne cherche pas à savoir qui a commencé, mais en gros, il est dans l'intérêt des deux gouvernements d'Erevan et de Bakou de faire monter les tensions, en Arménie pour calmer le jeu politique et les relations avec l'armée, et en Azerbaïdjan pour faire oublier la chute brutale du niveau de vie. Et en effet, derrière tout ça, il y a le facteur turc et il y a le facteur russe. Donc c'est une situation qui est assez grave. Ce qui montre aussi que ce conflit dure depuis 88, il n'est, à mon avis, sans solution. Si je peux me permettre un aparté personnel, il y a une vingtaine d'années, le président Chirac, quand j'étais au Quai d'Orsay, m'avait envoyé en mission pour porter une lettre au président arménien et au président, le père de Ilham Aliyev, sur le groupe de Minsk pour relancer ce cadre de discussion. La motivation du président Chirac était très simple. Il disait « Nos intérêts politiques électoraux sont en Arménie, hein, Marseille, Vienne, Valence, Lyon, Villeurbanne, Maison-Alfort, toutes les circonscriptions électorales arméniennes, la sympathie traditionnelle de la France pour l'Arménie, mais nos intérêts économiques, le pétrole, le gaz, les satellites, l'armement, sont en Azerbaïdjan, donc on va essayer de calmer le jeu pour pouvoir travailler avec tout le monde. Et on s'appuyait beaucoup sur la Géorgie de Chevernadze à cette époque. Donc c'est un dossier que je suis depuis le début, et je pense qu'il est sans solution.
Sept jours dans le monde.
Continuons notre voyage, Michel Fouché. Partons maintenant pour la Russie, où les opposants au régime tentent de faire entendre leur petite voix après le vote du référendum qui peut permettre à Vladimir Poutine de rester au pouvoir. À Moscou, il y avait un nombre considérable de policiers face aux manifestants lors de ce rassemblement. Daniel Valot, mercredi.
Nous récoltons des signatures pour notre pétition, contre la réforme de la Constitution et contre le maintien de Poutine au pouvoir. Pour l'instant, j'ai une vingtaine de noms, mais regardez, les gens sont de plus en plus nombreux.
Parmi les signataires, nous rencontrons Andrei, un ancien militaire qui a voté non le 1er juillet dernier. Pour lui, ce vote était une mascarade. Il est donc parfaitement logique d'en contester le résultat devant les tribunaux. J'ai signé contre cette réforme car pour moi, il s'agit tout simplement d'un coup d'État. Ce vote, c'est une fraude à grande échelle. Ils ont fait voter tous les retraités en leur distribuant des cadeaux. Et le vote a été étalé sur une semaine exprès. À mon avis, la fraude représente 20% des voix. La file d'attente pour signer la pétition s'étend sur plusieurs centaines de mètres, malgré la pluie et la présence massive des forces de police. En raison du coronavirus, la manifestation a en effet été déclarée illégale par les autorités.
Le coronavirus, c'est un prétexte. Regardez à Moscou, le confinement, c'est fini. Plus personne ne porte de masque. Mais pour interdire les manifs, c'est très pratique. Vous savez, j'ai 50 ans et je sais qu'ils peuvent m'arrêter. Mais je dois être ici. Pour mon pays, pour mes enfants et pour leur avenir.
Dans la soirée, les médias russes faisaient état de plus d'une centaine d'arrestations parmi les manifestants.
Reparlons du monde face au coronavirus. Maintenant, l'épidémie continue sa progression aux États-Unis, notamment. Écoutez par exemple ce reportage en Arizona signé Eric DeSalve.
Dans un râle d'épuisement devant son hôpital de Phoenix, le docteur Akhtar ne cache plus sa colère. Tous les jours, cet urgentiste soigne les malades les plus graves du Covid dans son unité de réanimation saturée, aux premières loges, pour observer l'explosion du coronavirus en Arizona. Tout cela aurait pu être évité, dit-il, car au début de la pandémie, l'Arizona faisait figure de bon élève. Tout a basculé en mai, quand le gouverneur républicain a lancé le déconfinement trop tôt, selon Murtaza Akhtar du Valley Wise Medical Center de Phoenix.
Après avoir décrété le confinement, dès que les chiffres ont commencé à être bons, le gouverneur a lancé le déconfinement, sans attendre d'avoir toutes les données. C'est ça le problème. Et quand le gouverneur a annoncé que c'était le moment de rouvrir l'économie, tout le monde s'est dit « Ok, c'est bon maintenant ».
Actuellement, en Arizona, un test sur quatre est positif au Covid-19. C'est le taux le plus élevé de tous les États-Unis. Si les cas de Covid augmentent, c'est uniquement parce que les tests augmentent, affirme en boucle Donald Trump. Pas si simple, répond le docteur Akhtar.
Le chiffre qui compte vraiment, c'est le pourcentage de tests qui reviennent positifs. Chez nous, cette fraction est si élevée que nous sommes sûrs que le virus est largement répandu. Ça veut probablement dire qu'il y a 10 fois plus de cas que ceux que nous avons diagnostiqués.
Et pour sortir l'Arizona de cette spirale, le docteur Akhtar demande aux autorités de rendre au plus vite le port du masque obligatoire, ce que refuse toujours le gouverneur.
Avant de vous retrouver, Michel Fouché, partons au sud du continent américain, maintenant au Pérou précisément. Malgré l'épidémie, les transports publics redémarrent à Lima, Willoen, Munoz, Boileau.
Dans le terminal terrestre de Lima Nord, le plus grand terminal de bus de la capitale, les files d'attente devant les guichets sont interminables. Certains sont là depuis l'ouverture, comme cette jeune femme qui cherche à rentrer chez elle auprès de sa famille qu'elle n'a pas vue depuis 4 mois.
Je m'étais inscrite sur les vols humanitaires organisés pendant le confinement, mais je n'ai pas pu en bénéficier, donc j'espère pouvoir rentrer cette fois et retrouver mon mari et mes enfants.
À quelques mètres devant elle, une grosse valise à la main, un homme d'une cinquantaine d'années vient tout juste d'acheter un billet pour rendre visite à son père malade, mais il a dû mettre le prix.
Je vais voir mon père qui vit seul, il est diabétique et comme personne ne s'est occupé de lui pendant le confinement, je dois lui rendre visite, mais les prix ont augmenté. Généralement, je paie 40 sols le trajet, maintenant c'est 60 sols.
Augmenter les prix, une mesure nécessaire pour compenser les pertes de ces derniers mois, selon ce gérant d'une compagnie de bus.
En 4 mois, on a perdu au moins 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Ça a occasionné des retards dans le paiement des bus et de notre personnel, donc on doit augmenter les prix si on veut relancer notre activité.
La reprise des transports de passagers est jugée essentielle dans la réactivation économique du Pérou, car 10% de l'économie dépend de ce secteur.
Et en Inde, c'est le reconfinement pour les 120 millions d'habitants de l'état du Bihar et pour les habitants de Bangalore. Correspondance mardi de New Delhi, Sébastien Farsi.
Ces deux régions de Bangalore et du Bihar au sud et à l'est du pays ont été largement épargnées jusqu'à présent, mais elles voient le nombre de cas grimper de 5 à 10% par jour ces derniers temps. Et encore, l'ampleur de la contamination est sous-évaluée, surtout dans la région pauvre du Bihar où l'on fait très peu de tests, 60 fois moins par habitant et par jour qu'à New Delhi par exemple. Dans cet état, les hôpitaux publics sont déjà surchargés en temps normal et les autorités craignent une vraie crise si le virus se répand davantage. Bangalore, à l'inverse, est l'une des villes les plus riches du pays, mais elle ne semble pas s'être préparée pour l'arrivée du virus, et ce sont cette fois les docteurs qui manquent cruellement. Entre ces deux régions, c'est donc 10% de la population indienne qui va être confinée. De manière générale, en dehors de New Delhi et de Bombay, où d'importants moyens ont été déployés ces derniers mois, le virus progresse rapidement dans presque toutes les régions indiennes et le pic national de la contamination ne devrait pas être atteint avant plusieurs mois.
Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Michel Fouché, qui a écrit Le Retour des frontières, un livre réédité et enrichi au CNRS édition. Michel Fouché, vous écrivez dans votre livre « Le phénomène frontalier suscite un malaise culturel lorsque dominent les lectures confondant limites et barrières, contrôle et coercition. Il n'est pas viable de réduire la question des frontières à la seule problématique migratoire. » Nous y sommes, là. Il ne s'agit pas du tout d'immigrer.
Non, ben, je m'en réjouis, hein, là, le foyer chinois, encore une fois, c'est lié à l'intensité des phénomènes de circulation en amont et puis après en aval. Le facteur central, c'est l'efficacité de l'administration, de l'appareil d'État et bien entendu des dirigeants. Et là, on voit très bien trois formules en quelque sorte. Il y a la formule démocratique, qui finalement, et on fera le bilan à la fin de l'année, a relativement bien fonctionné en Europe. Il y a ce que j'appelle les États avec des régimes fanfarons, hein, c'est-à-dire des États démocratiques avec des dirigeants qui n'ont pas cru à tout ça, hein, que ce soit les États-Unis ou le Brésil. Et puis il y a les régimes autoritaires qui ont une grande capacité de confinement, mais enfin, dont les statistiques ne sont pas d'une fiabilité absolue. Alors pour la Russie, ce qui est intéressant, c'est que président Poutine s'est mis au vert, si j'ose dire, dans sa résidence de la banlieue de Moscou, et il a laissé le ministre de la Sécurité et de la Défense, et surtout le maire de Moscou et les gouverneurs, gérer les affaires. Ça se passe pas très bien. Il y a eu en plus ce référendum sur les deux nouveaux mandats présidentiels, mais dans ce référendum approuvé à 77%, il y avait 200 questions additionnelles, notamment sur l'indexation des retraites. Donc on a voté dans un paquet d'ensemble, à la fois pour l'indexation des retraites qui avait été baissée il y a quelques mois, qui avait rendu le président impopulaire. Si on regarde dans le bureau du président Poutine au Kremlin, il y a la statue de Pierre Legrand. Alors j'ai vérifié, Pierre Legrand a régné 42 ans, le président Poutine pourra régner 37 ans jusqu'en 2036. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il y arrivera cette fois-ci, mais comme je suis favorable au dialogue euro-russe et franco-russe, permettez-moi de citer l'hymne national, « Boje Tsaria Krani, que Dieu protège le Tsar ».
Alors Michel Fouché, je n'oublie pas que non seulement vous êtes diplomate, mais que vous êtes géographe et vous vous intéressez à la Russie en tant que géographe, c'est un pays fascinant quand on s'intéresse aux frontières. Et vous citez dans votre livre une notation de Václav Havel qui disait que la Russie ne sait pas vraiment où elle commence ni où elle finit. C'est fascinant comme formule.
Oui, parce que la Russie est un... Je me souviens de discussion avec Bronislav Geremek, historien, ministre des Affaires étrangères polonais. Il dit la Russie, c'est autre chose que l'Europe d'aujourd'hui. Hein, je vous rappelle qu'on en a déjà souvent parlé, cher ami Deldic. Au fond, La construction européenne se fait avec non seulement les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, mais des États qui renoncent à l'Empire. Le dernier exemple, c'est le Portugal en 75, après la révolution des œillets, l'Angola, le Portugal, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, etc. L'Angleterre fait, de ce point de vue-là, exception. Donc il n'y a pas le même besoin d'Europe à Londres. Et donc, la Russie reste quelque part un empire. On ne parle plus d'empire aujourd'hui, on parle de Russie Amir, le monde russe. Le monde russe. Et c'est un État qui n'est pas encore complètement un État-nation, parce qu'il y a quand même 20 millions de minoritaires, et notamment les musulmans du Tatarstan et du nord du Caucase, hein, plus les populations de l'Altaï. Donc c'est pas encore un État-nation, et donc actuellement c'est un État territorial. C'est un État territorial qui reste le plus grand État du monde, avec des frontières en gros réglées avec la Chine, mais qui ne sont pas réglées dans le Caucase, en Géorgie, qui ne sont pas réglées, on le voit bien, en Ukraine. Hein. Il y a une difficulté pour la Russie à se penser comme autre chose qu'un empire et autre chose qu'au fond le lieu de rassemblement de tous les russophones. Hein. C'est pas encore un État-nation. Et là, plus l'humiliation quand même de la période 91-92, les spoliations de l'époque de Yeltsin. Mais enfin bon, on continue maintenant à utiliser ce qui s'est passé dans les années 90. Hein, le gouverneur de Khabarovsk, qui a eu le tort de s'opposer à Poutine, vient d'être arrêté sous des prétextes extrêmement anciens. D'où des manifestations à Vladivostok. Donc je ne suis pas sûr que ce référendum tiendra ses promesses jusqu'en 2036. Je vois mal le même homme rester jusqu'en 2036.
Une semaine d'actualité.
Et parlons de la France maintenant, Michel Fouché, avec une actualité politique chargée en cette mi-juillet. Mardi, lors de la fête nationale, Emmanuel Macron a donc voulu parler du nouveau chemin qu'il entend emprunter en répondant aux questions de deux journalistes de la télévision. On l'a écouté tout à l'heure, Valérie Gasse.
On a le droit de voir loin et grand, même lorsqu'il ne vous reste que 600 jours. Cette phrase d'Emmanuel Macron montre qu'il n'a renoncé à rien et surtout pas à convaincre les Français. La confiance, le dialogue seront à entendre le chef de l'État, les fils directeurs de son action pour les deux ans qui le séparent de la prochaine élection présidentielle. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, le nouveau chemin n'est pas un changement de cap, mais un changement de méthode, une promesse déjà faite après la crise des Gilets jaunes. En se livrant à l'exercice de l'interview un 14 juillet, Emmanuel Macron a voulu s'adresser aux Français pour s'expliquer avant d'entamer la dernière partie de son mandat qui sera marquée par une crise économique et sociale majeure dans laquelle il va jouer son avenir présidentiel avec à ses côtés un nouveau Premier ministre, Jean Castex, choisi pour sa culture du dialogue social, a dit le président comme un gage de bonne volonté. Emmanuel Macron, hyper président, a essayé comme à son habitude de concilier les annonces immédiates et la vision à long terme avec un objectif pour répondre aux peurs des Français, leur donner un monde à voir, celui qu'il avait déjà promis en 2017.
Alors mercredi, c'est Jean Castex, précisément le nouveau Premier ministre, qui a prononcé son discours dit de politique générale devant les députés. Il veut réconcilier, dit-il, les Français. Écoutons un extrait de son intervention.
Il y a beaucoup de France qui se sentent loin et laissées pour compte. France des banlieues, France rurale, France des Outre-mer, France dite périphérique. France de ceux, y compris au cœur de nos villes, n'ont pas droit à la parole. Ces Français-là sont notre pays, autant que la France de la réussite économique, scientifique, industrielle ou culturelle, dont nous sommes légitimement fiers. Et ce sera notre première ambition immense, réconcilier ces Français si différentes, les souder ou les ressouder, faire que de part et d'autre. On s'écoute, on se comprenne. Que l'on contribue à restaurer cette valeur cardinale qui soude les sociétés comme les valeurs humaines, la confiance. La confiance du peuple en ses élites, entre l'État et les corps intermédiaires, la confiance en l'avenir.
Sur le discours de Jean Castex, le nouveau Premier ministre à l'Assemblée nationale, mercredi, les explications d'Anne Souhaitemont.
L'ambition affichée par Jean Castex est claire, réconcilier la France. Les Frances rurales, périphériques, des banlieues et la France qui réussit. Pour cela, une méthode, la concertation et la décentralisation qui va connaître une nouvelle étape. Il nous faut réarmer les territoires, insistait le Premier ministre. Bref, une méthode nouvelle revendiquée pour lutter d'abord, et c'est la priorité numéro un du gouvernement pour les 18 prochains mois, contre le chômage, avec un plan de relance chiffré à 100 milliards d'euros. Mobilisation pour l'emploi des jeunes, avec des repas à 1 euro pour les boursiers, pour l'industrie, cette crise a révélé notre dépendance et notre trop grande absence des secteurs stratégiques, assume Jean Castex, pour la santé et pour le climat. Je crois à la croissance écologique, pas à la décroissance verte, a lancé le Premier ministre, qui consacrera 20 des 100 milliards d'euros du plan de relance à la transition écologique. Un discours de politique générale soumis à un vote de confiance voté par 345 députés, soit une majorité large, mais c'est tout de même 25 voix de moins qu'Édouard Philippe en 2017.
Suite de cette édition d'une semaine d'actualité, en compagnie de Michel Fouché. Comment le géographe voit-il, Michel Fouché, vous êtes plus habitué à vous pencher sur les affaires du monde, mais comment voit-il le géographe que vous êtes, cette notion de France au pluriel?
Oui, enfin, à condition, bon, j'aime bien qu'on parle de territoire, enfin les territoires sont pas des acteurs, hein, c'est... Il y a derrière tous ceux qui veulent décentraliser, qui poussent leur avantage. Je crois que c'est une bonne chose que les Français, qui ne sont quand même pas extrêmement forts en géographie, prennent conscience de la diversité des territoires. Je suis très opposé à cette division entre la France des métropoles et la France des périphéries, d'autant plus que les retraités dont je fais partie souvent vivent en dehors des métropoles et distribuent leurs revenus par différents achats. Non, je crois que c'est une bonne chose. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est qu'on parle pas du monde. On parle même plus de politique étrangère. C'est le repli sur soi. Il y a la dimension européenne, évidemment, chez le président Macron. À mon avis, il aurait dû en parler plus, parce que les idées françaises ont été adoptées par l'Allemagne. Hein, l'idée d'Europe souveraine, on a énormément progressé à l'échelle européenne, clairement sur des thèses françaises. Autonomie stratégique, souveraineté européenne, plan de relance, autonomie et l'idée de la France forte. Moi, ce qui me préoccupe, non pas comme géographe, mais je dirais plus comme anthropologue, c'est ce niveau de défiance des Français, non seulement à l'égard des élites dirigeantes et des gouvernements, mais à l'égard d'eux-mêmes. Et comment peut-on réarmer la confiance d'un pays si les Français eux-mêmes n'ont pas confiance en eux? Ça, c'est une grande préoccupation que j'ai, et je n'ai toujours pas trouvé la clé d'explication de cette situation qui fait que on a plutôt bien géré la crise par rapport à d'autres, je pense aux Britanniques, sauf que Johnson a un taux de popularité de 63%, alors qu'il y a beaucoup plus de morts au Royaume-Uni. Je ne comprends pas cette espèce de majocisme français. Ça me désole.
Alors Michel Fouché, continuons à parler des frontières. Dans son dernier livre en date, Philippe de Villiers, souverainiste s'il en est, un livre qui s'intitule « Les Gaulois réfractaires demandent des comptes au Nouveau Monde », dans son livre, il tire un certain nombre de leçons, et selon lui, la deuxième leçon à tirer de cette crise, de cette pandémie et de ce confinement, c'est, et là je le cite, « de rétablir nos frontières dont les bonnes âmes découvrent aujourd'hui qu'elles sont des filtres protecteurs et pacificateurs ». C'est votre avis ça, des filtres protecteurs et pacificateurs?
Oui, enfin, elles sont des fils protecteurs en cas de guerre, évidemment. Donc là, il parle de ligne de front, il parle pas de frontières civilisées entre États démocratiques. Et en effet, mais il ne faut pas essentialiser. On a déjà fermé temporairement les frontières en Europe en 2015, au moment des attentats terroristes, parce que la liberté de circulation était utilisée par les djihadistes qui venaient de Syrie et d'Irak contre nous. Donc, à un certain moment, il ne faut pas essentialiser ces frontières, mais à un certain moment, on a besoin de contrôle. Hein. Temporairement, on a besoin de contrôle, même si la libre circulation est un acquis. C'est pas seulement un acquis pour aller acheter du tabac en Belgique ou sa baguette en France quand on est allemand. C'est parce que toute l'histoire de l'Europe depuis 45, de l'Europe occidentale, c'est la transformation des anciennes lignes de front, des lignes d'affrontement, en paisible frontière ouverte. L'ouverture, c'est le signe de la paix entre les voisins. C'est tout à fait nouveau, ça. Hein. C'est la première fois dans l'histoire de l'Europe qu'il n'y a pas de guerre, sauf la Yougoslavie, depuis aussi longtemps. Donc, De Villiers essentialise, il a tort.
Alors il y a une autre donnée qui est sous-entendue dans le livre de Philippe de Villiers d'ailleurs, c'est cette notion d'autonomie. Certains parleraient même d'autarcie. Vous citez Charles de Gaulle qui, dans un discours à Alger en 1943, disait « l'autarcie mènerait vite à l'abaissement ».
Ben oui, c'est un discours tout à fait extraordinaire pour les 60 ans de l'Alliance française qui s'est repliée à Alger. Et il fait de la culture une arme au même titre que la résistance armée. Hein ? Et il dit, c'est par la confrontation avec l'autre, que la confrontation, l'ouverture aux autres, qu'on peut en quelque sorte se mesurer, s'enrichir et savoir ce que nous valons. Hein ? C'est une logique méritocratique qui est tout à fait dans la ligne du président Macron. Et que, évidemment, j'approuve considérablement, parce que derrière le mérite, il y a le travail, et qui est une valeur qui tend un peu à disparaître aujourd'hui dans certains pays, dont la France.
Alors, il y a aussi cette notion de frontière, ce mot frontière. Vous vous dites, Michel Fouché, que vous ne connaissez pas la frontière. Vous connaissez des frontières, mais pas la frontière. Parce qu'on parle souvent, on essentialise aussi cette notion de frontière.
Oui, ça existe évidemment pour les juristes. Pour un juriste, la ligne abstraite, la ligne artificielle, toutes les frontières sont artificielles au sens de construction sociale, sociopolitique. C'est une ligne, les juristes disent, et c'est tout à fait juste, c'est là où expire la souveraineté d'un État. Et donc, où commence la souveraineté d'un autre État. Encore une fois, si je vais de hors confinement, hors attentat, si je vais par le pont de l'Europe de Strasbourg à Kiel, il n'y a pas de contrôle douanier, il n'y a pas de contrôle policier, je n'ai pas besoin de changer de l'argent, c'est toujours de l'euro, sauf que de l'autre côté, je ne suis plus en France, je suis en Allemagne. Donc, on a confondu invisibilité des frontières et disparition des frontières. Les frontières n'ont jamais disparu. Elles sont devenues moins visibles parce que cette moindre visibilité est le signe du concert entre les nations de l'Union européenne, qui est le grand acquis de la construction européenne. C'est ça la réalité.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut à quelques auditeurs qui nous écoutent fidèlement en Afrique. Bonjour par exemple à Jospin, à Yaoundé, à Pierron, à Boaké. Un salut à Diallo, à Conakry. Bonjour à Assou qui nous écoute à Ouagadougou, à Odilon, à Madagascar. Bonjour à Olivier, à Bukavu et à Halil Mahamat, à Yaoundé.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Michel Fouché, un continent que vous connaissez bien. Au Mali d'abord, après les affrontements de la fin de la semaine dernière à Bamako, l'arrestation puis la libération des leaders des manifestants. En tout cas, l'opposition regroupée dans le mouvement du 5 juin durcit le ton à Bamako mercredi. Serge Daniel.
L'opposition malienne réunie au sein du mouvement du 5 juin affirme désormais que son mémorandum qui ne réclamait plus le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta est caduque. Elle réclame désormais sa démission et est prête, dit-elle, à uniquement discuter des conditions de son départ. Non, ça, membre de l'opposition.
Si négociation il doit y avoir, elles doivent porter sur les conditions de départ de M. Ibrahim Boubacar Keïta. Ceux qui ont donné l'ordre de tirer sur des manifestants, ceux qui ont exécuté l'ordre qui a consisté à tirer sur les manifestants, doivent répondre devant la justice. Et notre détermination est de taille.
Autre décision des opposants à peine libérés, la poursuite de la désobéissance civile. Non, ça.
Cela se fera sans violence, sans casser quoi que ce soit et sans brûler quoi que ce soit. Nous sommes des pacifistes, nous sommes un mouvement pacifique et nous obtiendrons gain de cause en restant ordonnés et organisés.
Et la situation politique à Bamako est à suivre évidemment dans nos journaux. La Cour pénale internationale a ouvert ce mardi le procès d'Alassane. Ce djihadiste est poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis lors de l'occupation de Tombouctou par Ansardine et Acmi en 2012. Il était l'un des commissaires de la police des mœurs à l'époque. L'âme pensante et agissante de la police islamique, dit la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, Lucie Mouillot.
À l'origine, simple pharmacien vétérinaire, membre d'un mouvement prônant la cause du peuple Touareg, Alassane est accusé d'avoir été le commissaire de la police islamique à Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013. Parmi les charges qui pèsent contre lui figurent torture, viol et esclavage sexuel, persécution, atteinte à la dignité de la personne et attaque contre des monuments religieux. Plus précisément, selon la procureure de la CPI Fatou Bensouda, Alassane menait lui-même les patrouilles chargées de surveiller la population et de faire respecter les règles de la charia. Il aurait aussi participé à l'application des décisions du tribunal islamique, infligeant des coups de fouet et d'autres châtiments violents aux personnes condamnées. La procureure l'accuse également d'avoir pris part au système de mariage forcé entre des combattants djihadistes et des femmes de Tombouctou, une politique qui a mené à de nombreux viols répétés. Des accusations réfutées par la défense lors de l'audience préliminaire en juillet 2019. Selon son avocate, Alassane n'est ni radical, ni misogyne, ni djihadiste.
26 ans après l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana, événement déclencheur du génocide en Rwanda en 1994, la justice française a donc confirmé il y a deux semaines un non-lieu prononcé en 2018 à l'égard des proches de l'actuel chef de l'État, Paul Kagame. Revenons sur cette décision avec Florence Maurice aujourd'hui. Florence Maurice qui a lu attentivement les attendus du non-lieu.
Fausse boîte noire, manipulation, témoins disparus ou assassinés et juges d'instruction qui se succèdent mais dont les travaux se contredisent, l'arrêt d'une soixantaine de pages témoigne de l'étrange climat qui a régné au cours de cette enquête hors norme. Les témoignages recueillis et sur lesquels repose principalement l'accusation sont largement contradictoires ou non vérifiables, peut-on lire dans ce document. Des témoignages présentés pour les uns comme incertains, pour les autres comme peu crédibles, voire indignes de foi. Les magistrats soulignent notamment le rôle trouble joué au cours de l'instruction par Paul Baril, ex-gendarme de l'Élysée et l'un des promoteurs de la thèse de la culpabilité du FPR dans cet attentat. Il fustige, je cite, ces mensonges, revirements, contradictions et manipulations multiples qui traduisent, selon eux, une certaine propension à la mythomanie. Fin de citation. Sur la question de l'origine des tirs de missiles, les magistrats s'appuient sur les conclusions de l'expertise trévidique qui privilégie comme zone de tir la plus probable le site de Kanombé, alors aux mains de la garde présidentielle du régime Habyarimana. Quant au rapport confidentiel de 2003 à charge contre le FPR et sur lequel s'appuyaient les parties civiles pour réclamer un complément d'enquête, il est ancien, écrivent les magistrats, et n'apporte aucun élément nouveau déterminant qui justifierait, selon eux, des vérifications et auditions complémentaires.
Avant de vous retrouver, Michel Fouché, dans quelques minutes, reparlons de l'Afrique face au Covid, avec plus que jamais des situations contrastées. Par exemple, un confinement strict en Afrique du Sud et un couvre-feu entre 21h et 4h du matin. Mais une situation davantage sous contrôle au Sénégal, où les frontières aériennes se sont rouvertes à Dakar jeudi. Charlotte Hidrac.
Embarquement immédiat pour le vol Air Sénégal à destination de Paris. Vers l'Union européenne, seules quelques catégories de passagers sont autorisées à voyager. C'est un grand jour pour Madame Fall.
Je passe à Paris pour aller en Italie. Ma famille est là-bas. J'étais coincée ici. Depuis 4 mois, je suis trop impatiente de voir mes enfants.
Samba, lui, a la double nationalité, sénégalaise et française. Il est...
ravi de retourner, voilà. Depuis le temps, on attendait. On ne pouvait pas partir. Le président avait dit le 15. Donc, premier jour, on part.
Cette réouverture de l'espace aérien, c'est un moment important aussi pour le secteur, très éprouvé par la pandémie. Le directeur général de la structure gestionnaire de l'aéroport, Xavier Marie.
Nous attendions ce jour avec beaucoup d'impatience. Nous avons eu 2% de trafic pendant 4 mois, donc nous estimons que notre perte financière est du même ordre, c'est-à-dire que nous avons perdu 98% de notre chiffre d'affaires.
Pour l'heure, la reprise est timide et sera progressive, souligne Omar Rassimoudia, directeur des transports aériens.
Le premier facteur, c'est qu'il faut que le pays de destination soit ouvert, sinon on ne peut pas y aller, évidemment. Mais l'autre facteur qui est le plus important pour cette reprise, c'est la confiance au transport aérien.
Le ministère de la Santé a publié une liste de laboratoires habilités à réaliser des tests Covid pour les personnes souhaitant voyager. Le coût, 40 000 francs CFA, environ 60 euros.
Michel Fouché, vous connaissez très bien l'Afrique, vous connaissez très bien la question des frontières singulièrement africaines. Vous en parliez tout à l'heure, réouverture des lignes aériennes, voilà un exemple concret.
Oui, bah écoutez, vous savez, je crois que nos amis africains nous ont donné une leçon parce qu'il y avait des annonces catastrophistes en Europe sur ce qui allait se passer et en fait, dans des pays qui ont déjà connu d'autres situations critiques au plan sanitaire, il faut leur rendre hommage, même s'il y a une exception en Afrique du Sud. Moi, je voudrais dire un mot sur le Mali parce que c'est le président Konaré, Alpha Oumar Konaré, qui avait lancé le programme Frontières d'Union africaine quand il était président de la commission. Et c'est un travail formidable qui a été fait. Alors là, actuellement, son successeur a des difficultés. Moi, j'ai regardé. L'âge médian au Mali, c'est 16 ans. le président Keïta, il a 75 ans. Ça m'a rappelé quand je manifestais contre De Gaulle en 68, boulevard Saint-Michel. Historiquement,
vous avez manifesté, Michel Fouché ?
Oui, mais oui. Historiquement, j'étais stupide parce que j'adore De Gaulle, mais c'était mon seul horizon politique et je voulais que ça change. Donc c'est vrai qu'il y a du dégagisme. Comme les élections passées de mars-avril n'étaient pas tout à fait correctes, je pense que la bonne solution, ce sont des élections générales sous la supervision de la CEDEAO, suivies d'un gouvernement d'union nationale, avec, c'est une idée personnelle, un quota de jeunes. L'âge médian, c'est 16 ans. Il faut que les gens de 16 ans ou les jeunes soient représentés politiquement. L'autre chose, c'est cette affaire des morts. Il est inadmissible, je ne connais pas le détail de la décision, qu'on demande à la FOSAT, la force de lutte antiterroriste, de réprimer des manifestants. Il faut que, au Mali comme ailleurs, on apprenne ce qu'est un maintien de l'ordre démocratique. C'est très compliqué. On le voit en France. Ça serait bien aussi qu'on ait des nouvelles de Soumaïla Cissé, hein, qui a été enlevée le 25 mars. Donc voilà, je crois que voilà. Et sur les défenseurs d'Ali Hassan, je leur recommande quand même de revoir le film d'Abderrahmane Sissoko, Timbuktu 2014, qui dit tout. Il n'y a pas d'excuse pour les gens qui ont fait ça.
Michel Fouché se pose toujours cette question des frontières africaines et du maintien de la surveillance de ces frontières africaines. Vous notez dans votre livre que le Mali compte plus de 7000 km de frontières, l'Algérie plus de 6000, le Tchad quasiment 6000, le Niger 6000, etc. La RDC plus de 10 000. Difficile de garder des frontières
Bien entendu, surtout si depuis le nord, la Libye ou l'Algérie, on exporte les groupes terroristes qui trouvent des sanctuaires. Mais je crois que la question, c'est pas tellement les enveloppes frontalières. Quand il y a des menaces extérieures, c'est une vraie question, en effet. Mais enfin, le Niger a réussi à partir d'Agadez à boucler les routes, parce que les routes sont pas si nombreuses. Non, la question, c'est, et là je suis un peu critique vis-à-vis des gouvernements maliens successifs, c'est l'état distant. C'est que le pouvoir, les fonctions régaliennes de base ne sont pas assurées sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, les difficultés au Mali sont pas seulement dans le nord et dans les zones Touareg, c'est au centre, c'est dans le delta intérieur du Niger, du fleuve Niger, parce que là, vous avez des tensions très anciennes entre les pasteurs, les paysans, les droits de péage pour l'accès au pâturage flottant, etc. Et donc là, on a une demande d'État, et c'est assez curieux de voir que des élites ouest-africaines formées au jacobinisme français, finalement, n'exerce pas les fonctions régaliennes sur l'ensemble du territoire. Alors, c'est vrai que le territoire est vaste, et c'est pour ça qu'on a besoin d'élections générales où toutes les demandes s'exprimeraient avec... J'espère qu'il y a un Jean Castex malien.
Alors, Michel Fouché, vous écrivez que dans ce monde d'après-pandémie, s'il advient, précisez-vous, vous n'êtes guère optimiste, nous devrons, je vous cite, apprendre à repenser nos limites territoriales et écologiques, létales et éthiques. Même au paradis, selon le récit biblique, il y eut un fruit défendu.
Il y eut un arbre défendu. Oui, on a, si vous voulez, je travaille sur les frontières depuis 35 ans. J'ai toujours trouvé que le discours sans frontières était insignifiant et dangereux parce que on a besoin de ces symboles de limites. Mais les frontières, c'est un type de limite parmi d'autres. Les limites éthiques reculent sous pression d'un certain nombre de minorités. Les limites fiscales, les GAFA n'en veulent plus. Hein, 13 milliards de bénéfices pour Google en Irlande, 50 millions d'euros d'impôts. Dire tout ça, c'est pas sérieux.
Mais un jugement remis en cause par la justice européenne cette semaine.
Oui, ouais. Mais justement, mais enfin là, donc on a besoin les limites écologiques. On peut pas continuer à consommer de cette façon, à mettre du plastique partout et à asphyxier Venise, Dubrovnik ou encore. Donc on a besoin de retrouver ce sens des limites. Et là, on va se heurter à un certain nombre d'intérêts technologiques. On va se heurter aussi à cette espèce d'habitude, on l'a vu en Suède, hein, j'ai le droit de tout faire, je fais ce que je veux. Je suis en train de lire pendant cet été le livre de Pierre-Henri Tavoyot, Comment gouverner un peuple roi. Voilà, c'est ça la question des limites. Oui. Nous ne sommes pas un peuple roi. On a besoin de gouvernement. Le gouvernement, c'est l'art de gouverner et c'est l'art d'être gouverné. Pour être gouverné, il faut accepter le principe des limites.
Et précisément, Michel Fouché, cette crise a aussi montré que les États sont toujours là, plus que jamais.
Oui, bon, ceux qui l'avaient oublié en sont pour leurs frais. Oui, la fonction régalienne, hein, la sécurité, la sûreté, c'est une notion qu'on a perdue de vue. Moi, j'en parle dans l'article du Monde que vous citez. Il faut retrouver cette idée de sûreté. Hein. C'est pas la sécurité classique, c'est tous les éléments qui contribuent à la protection des individus. Mais la meilleure protection, c'est la prise de responsabilité individuelle. Ça a été le message de Madame Merkel qui a été parfaitement compris. Hein. Et là, c'est quelque chose que nous devons, nous aussi, en France, accepter.
Et c'est le retour du politique.
Oui, et de la responsabilité. C'est le politique, c'est des droits et des devoirs. La notion de devoir en France disparaît un peu, trop rapidement à mon sens.
Et quelles leçons tirez-vous de façon générale de cette crise, Michel Fouché, de cette pandémie qui continue d'ailleurs,
hein ? D'abord, elle n'est pas terminée. Hein. Regardez le Brésil, regardez l'Inde, regardez l'Afrique du Sud. J'ai regardé pourquoi le Cap. Comment expliquer en langue Cosa, qui est la langue du Cap occidental, le mot distance sociale? Ça n'existe pas en Cosa. Les gamins continuent à jouer au football. Il y a la moitié de la population qui vit dans les bidonvilles, et les ouvrières des supermarchés, les caissières, hein, les premières de corvée sud-africaines, vivent dans le grand bidonville de Khayelitsha, où tout le monde se mélange. Donc, vous avez des questions culturelles. Donc, ça, c'est pas terminé. C'est un formidable révélateur, des capacités administratives des États, des capacités scientifiques et hospitalières. C'est aussi un accélérateur de tendances antérieures. Hein. Regardez la Chine qui en profite en mer de Chine et à Hong Kong. Regardez Erdogan qui en profite en Libye, peut-être en Azerbaïdjan, Poutine en Russie, Trump qui, j'espère, sera battu le 3 novembre, etc., etc. Et donc, il y a une accélération des choses. Ce qui me désole, mais ça, c'est la politique de la France, dans le bon sens, c'est cette crise du multilatéralisme. C'est la première fois qu'une crise sanitaire ne fait pas l'objet d'une concertation multilatérale. Quand il y a eu Ebola, les Américains, à l'époque d'Obama, ont envoyé des dizaines et des dizaines de médecins, de chercheurs et d'avions pour aider le Libéria. Cette fois-ci...
Ce sont les Cubains qui l'ont fait.
Ce sont les Cubains qui l'ont fait parce qu'il y a une vraie tradition médicale à Cuba et c'est une hommage aux médecins cubains de ce point de vue-là. Donc il faut reconstruire, ça c'est le discours de Jean-Yves Le Drian, hein, il faut reconstruire des instances multilatérales. Moi, ce qui me réjouit, c'est que les États européens découvrent qu'ils ont des intérêts communs, quelques intérêts communs. Et je pense que les Européens sortent renforcés politiquement dans leur projet depuis plusieurs mois. Mais parce que nous avons un sens aigu de la survie.
Merci Michel Fouché. On a bien compris qu'il faut lire votre livre qui s'intitule « Le retour des frontières » publié au CNRS édition. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idées avec notre invité Pascal Nouvel qui est philosophe des sciences. Nous nous intéresserons au discours d'origine. Comment les sociétés humaines écrivent-elles leur récit d'origine? Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.